Les événements qu'on vit quand même nous parlent. J'étais parti il y a une semaine sur une autre idée, mais on ne peut pas passer à côté de ce qu'on vit aujourd'hui. On pensait enfin arriver au bout après 2 ans de pandémie un peu lourde. Et puis maintenant, cette espèce d'angoisse qu'engendre ces événements d'Ukraine, on ne sait pas où ça va aller. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, c'est une chose qui me passe dans la tête. Ce n'est pas si facile. On est tout à coup confronté à une réalité qu'on n'a jamais connue. On a vécu dans une période où la guerre, ces événements-là, ont toujours été bien ailleurs. C'est la première fois pour nous qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive. Enfin, pour nous. Il y en a d'autres qui ont déjà vécu ça. Je pensais à Félix quand il était au Congo, ou à Jean et Christine il y a une trentaine d'années au Rwanda. Là, des événements de ce type-là qui arrivaient. Mais nous, on a vécu dans une illusion, dans un sentiment d'être dans un monde sûr, finalement. Et tout à coup, on est confronté avec cette réalité. Alors, je sais pas, vous me connaissez, moi j'avais envie de parler, de donner des paroles d'encouragement, parce qu'il y a plein de passages de consolation, d'encouragement. Et heureusement, on a chanté des choses comme celle-ci, qui sont un socle dont on a besoin. Mais moi, contrairement à mes désirs, moi je me dis, une chose qui nous arrive pour une première fois, ben c'est peut-être bien une bonne chose de confronter cette réalité, d'écouter vraiment ce que ça implique. Qu'est-ce que Dieu dit dans des événements comme ceux-ci? Avant d'être consolé, d'être encouragé, peut-être faut-il voir la réalité. Et franchement, c'est pas facile. J'ai de la... Ouais. Ayez de la compassion pour moi dans ce message. Une des raisons pour laquelle la Bible est ce qu'elle est, un livre d'histoire finalement, c'est pour nous montrer tout au long de l'histoire, d'un bout à l'autre, eh bien, ce qu'on vit, ce qu'ils vivent en Ukraine et qu'on craint de vivre ici, ben, ça a été, d'un bout à l'autre, la réalité. Nous, on a été épargnés pendant une certaine zone de temps, mais toute l'histoire est violente, toute l'histoire. Il suffit de lire l'Ancien Testament, de connaître l'histoire, quoi. Et dans la Bible, ben Dieu a prévu un livre particulier pour traiter cette question. C'est un petit prophète qui s'appelle Habacuc. Alors, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on lise très souvent, mais il est très parlant, en fait. Il a été écrit vers l'an 600, à peu près. C'est la situation dans Israël à ce moment-là, c'est que, il y a une menace sur Israël qui est l'Empire babylonien qui s'approche, guidé par un homme célèbre qui s'appelle Nabucodonosor. On connaît Nabucco de Verdi, mais c'est le même, quoi. Nabucodonosor. Et moi, ce qui m'a frappé en lisant ça, c'est que ça reflète quand même, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on vit maintenant. Alors, si tu peux mettre le premier. Bon. Message que Dieu a révélé au prophète Habacuc. Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes? Et vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres? Pourquoi me fais-tu voir tant d'injustices? Comment peux-tu accepter d'être spectateur du malheur? Autour de moi, je ne vois qu'oppression et violence. Partout éclatent des procès et des querelles. La loi n'est pas appliquée, la justice n'est pas correctement rendue, le méchant l'emporte sur le juste et les jugements sont faussés. C'est une description de l'état d'Israël à cette époque, mais je trouve que c'est une bonne description aussi de notre culture, de multiples manières. Et Habacuc, quand il voit ça, j'entends, il crie à Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une vision très réaliste, mais où est Dieu? Et quand on pense à ça, quelle est la prière qu'on a envie de faire? Que certainement Habacuc faisait, c'est: Seigneur, envoie un réveil, change les choses. Viens, Seigneur. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu avait donné de nombreux réveils. Donc voilà la situation que constate Habacuc. Et Dieu va lui répondre. Qu'est-ce qu'il répond? Et c'est là que je trouve ça ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui. « Fixez vos yeux sur les nations, dit le Seigneur. Soyez saisis d'étonnement. De votre vivant, une œuvre va être accomplie, une œuvre telle que vous n'y croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. Je fais venir les Babyloniens, ce peuple cruel et déchaîné. Ils parcourent le vaste monde pour s'emparer des terres d'autrui. Ils sont terrifiants et redoutables. Dans leur orgueil, ils décident seuls de leurs droits. Leurs chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups qui chassent le soir. Arrivant de loin, leurs cavaliers bondissent. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ils viennent tous semer la violence. Ils regardent avidement devant eux. Ils rassemblent des prisonniers innombrables comme des grains de sable. Ils traitent les rois avec mépris. Ils se moquent de ceux qui gouvernent. Les forteresses ne les impressionnent pas. Ils élèvent des remblais de terre et s'emparent de chacune d'elles. Ils passent comme un ouragan. Ils se précipitent ailleurs. Eux qui font un dieu de leur propre force. » Pas caricatural, c'est des... Ça décrit une situation qui n'est pas si semblable à ce qu'on vit maintenant en Ukraine. Mais quand même, il y a dans cette violence, dans ces mensonges, c'est quelque chose qui est parlant. Et ce qui est surprenant là-dedans, c'est « Je fais venir les Babyloniens ». Envoie un réveil, « Je fais venir les Babyloniens ». C'est un peu surprenant. En fait, ça reflète quelque chose qui est très profond dans toute l'histoire, dans toutes les Écritures. C'est que derrière tout ce qui se passe, si négatif que cela puisse nous paraître, ben Dieu est présent. Dans Jérémie, Nabucodonosor, celui qui produit tout ça, il a appelé, il est le serviteur de Dieu. Alors Nabucodonosor passe encore, mais si je dis que Poutine est le serviteur de Dieu, c'est... Vous voyez le choc que ça devait faire pour Habacuc. Il y a vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas. Dieu, pourquoi agit-il comme ça quand c'est lui qui dit, qui fait? La responsabilité, elle est sur Nabucodonosor, certainement. La responsabilité, elle est sur Poutine. Elle est sur Satan, certainement. Mais derrière tout ça, au-dessus de tout ça, c'est Dieu qui décide. C'est un peu difficile à avaler. Hein. On le sait, ce n'est pas la première fois que vous entendez ce genre de choses. Mais dans la réalité, quand les choses arrivent concrètement, on a vraiment de la peine. On ne comprend pas. Pourquoi? Comment est-ce que vraiment, derrière ce qui se passe en Ukraine, c'est Dieu qui agit? Ben, cette interrogation, le prophète... Il ne va pas trouver des réponses rapides, il va se tourner et demander à Dieu ce qui se passe. Quand on ne sait pas, quand on ne comprend pas, eh bien, la première chose, c'est de se tourner vers Dieu. Et c'est ce que fait ce prophète Habacuc. Habacuc, il prie. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 12 du chapitre 1. « Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. » Tu es mon Dieu, le vrai Dieu qui ne meurt pas, Seigneur, mon rocher protecteur. Tu as choisi et affermi ce peuple ennemi pour qu'il exécute ton jugement sur nous. Mais tes yeux sont trop purs pour supporter la vie du mal. Tu ne peux pas accepter d'être spectateur du malheur. Alors pourquoi regardes-tu sans rien dire ce que font ces gens perfides? Pourquoi gardes-tu le silence quand les méchants détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux? Il part juste, Habacuc, il part sur ce qu'il connaît de Dieu, sur sa justice, sur le fait qu'il est un rocher protecteur. Voilà ce que tu es, Seigneur. Mais maintenant, ce que tu fais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi gardes-tu le silence? Et la prière continue. Et je crois que c'est ce qu'on doit faire, et c'est une des raisons pour lesquelles je donne ce message, c'est aller vers Dieu et lui poser la question. Puisqu'il dit ça, et que ça nous confronte, parce que ce n'est pas tellement le Dieu qu'on connaît, eh bien, aller vers lui. l'interroger. Et ce n'est pas ce que font les êtres humains. Et ce n'est pas ce qu'on a tendance à faire. On sait d'avance. C'est très frappant quand on entend les nouvelles, on entend les interviews, de voir à quel point les avis sur ce genre de choses sont tranchés. C'est noir et blanc. Il y a les méchants, il y a les bons. Il y a ce qui est extraordinaire, la démocratie. Il y a l'horreur, c'est la dictature. Et puis, ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'on met en avant des valeurs, les valeurs de notre société. La patrie, avec un P majuscule. La liberté, avec un L majuscule. La justice, avec un J majuscule. Comme si ces choses-là étaient vraiment des réalités vécues dans ce monde. Alors, si Dieu nous dit, mais posez-moi la question, comment faire? Alors, je trouve Habacuc qui part bien, tu as les yeux purs, mais ce qui se passe est pire, pourquoi? Et j'aimerais juste là faire une réflexion qui ne vient pas de ce passage, mais qui me semble importante quand on réfléchit à cette question. J'aimerais lire, on l'a vu l'autre jour, le verset 17 du chapitre 3 de Jean. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Le but de Dieu dans tous ses jugements, dans tout ce qui arrive, ce n'est pas le jugement en soi, même s'il l'utilise. Le but de Dieu est de sauver. Et j'aimerais le dire à ce moment-là parce que c'est important. Parce que autrement, toute cette histoire-là rend encore plus incompréhensible. Mais posons cette base et gardons-là le but de Dieu dans tout ce qui arrive, même les choses négatives, même ce qui se passe en Ukraine. Finalement, ce n'est pas de juger, c'est de sauver. Ensuite, une deuxième chose pour Habacuc. C'est au début du chapitre 2, le verset 1, l'attitude d'Habacuc. Moi, je vais rester à mon poste de garde, j'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Donc, on peut prier, on peut crier à Dieu, mais il faut l'écouter. Il faut entendre ce qu'il a à dire. Parce que ce n'est pas facile, parce que justement les réponses de Dieu ne sont pas les réponses évidentes, ce n'est pas les réponses telles qu'on aimerait les avoir. Et si on se laisse aller, si on va tout droit, ben on va tomber sur les choses qu'on pense soi-même. Non, il faut s'arrêter. Et Habacuc s'arrête, il reste à son poste de garde. Et Dieu lui répond. Le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle par une vision. Grave-le sur des tablettes de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends-la, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. La première partie de la réponse de Dieu, c'est ce que je veux, ce que je fais, mes plans aboutiront. Mais ce n'est pas encore maintenant. Ce qui se passe maintenant, eh bien, c'est une chose, mais ça ne va pas s'arrêter. Ce qui se passe de si négatif, de si douloureux, de si scandaleux, de si choquant, ben ça ne va pas s'arrêter. La réalité des choses, la fin, le résultat, ben c'est pour dans longtemps. Il le disait à Habacuc, il nous le dit encore aujourd'hui. Mais il a fait des promesses. Il est un Dieu fidèle et il arrivera au bout. Et ce qui se passe maintenant n'est pas étonnant. Il nous le disait déjà là. C'est dans longtemps que ça arrivera au but. En attendant, il y a ce long chemin. Il y a eu des guerres, des difficultés dans le passé. Il y en a dans le présent. Il y en aura peut-être dans le futur, si le futur continue, jusqu'au bout, il y aura cette situation. Le monde, on est naïf souvent de croire que le monde est gentil. Non, le monde n'est pas gentil. Il est pécheur et il y a de la violence, toujours cachée. Et nous, on l'a beaucoup ignoré, je trouve, c'est dans notre génération, mais c'est là. Mais ça aura une fin. Dieu est fidèle. Et ensuite, et c'est là le centre de ce message, Dieu il répond, il dit une autre chose. Il dit, celui qui est gonflé d'orgueil ignore la droiture, mais le juste vit par sa fidélité. Verset qui est repris 3 ou 4 fois dans le Nouveau Testament sous la forme, le juste vit par la foi. Face aux incohérences qu'on peut constater de Dieu, face à ces questions auxquelles on n'arrive pas à répondre, ça nous choque et on ne sait pas, mais la réponse de Dieu, c'est la foi. Parce qu'il ne peut pas nous donner d'explication. Parce qu'on ne peut pas comprendre ces choses-là. Esaïe dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. On croit comprendre, on croit avoir des idées, mais on est des gros naïfs. On ne comprend pas. Et c'est impossible de comprendre. La seule solution, je dirais même, c'est plus qu'impossible, c'est arrogant de penser qu'on peut juger. Et c'est un des problèmes du monde. Et c'est des fois notre problème, on croit savoir les choses. Même des fois sur des bases bibliques. On a des prophéties et on pense qu'on peut prédire l'avenir avec des prophéties. Et on s'est trompé 1 million de fois là-dessus. Non, les choses nous dépassent. La seule solution, la seule chose qu'on a, c'est la foi, la confiance en Dieu. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est mis le juste vit par sa fidélité. Dans le Nouveau Testament, c'est mis le juste vit par la foi. Et c'est un peu. Bon, je n'entre pas dans ces détails. Qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est le juste vit par la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. L'acceptation de sa souveraineté sur toute chose. L'acceptation que ce qui se passe, je ne comprends pas, ce qui se passe en Ukraine, est contrôlé, porté par Dieu, à la limite permis, mais presque. Non, c'est lui qui est le maître de cela. Eh bien, faire confiance. Il est souverain sur toutes les circonstances. Mais il est parlé de fidélité aussi. Faire confiance en sa fidélité. Ce plan qui s'accomplit, s'accomplira. Et si je veux avoir une foi en Dieu, lui faire confiance, eh bien une chose dont j'ai besoin, c'est d'être conscient de cette fidélité de Dieu qui tourne tout pour le bien, de cette fidélité de Dieu qui fait que les choses qu'on a chantées tout à l'heure sont vraies. Le juste vit par sa fidélité, mais je dirais, le juste vit par la fidélité de Dieu aussi. Mais le juste vit par sa fidélité, c'est aussi un appel pour nous. Dans ces circonstances qu'on ne comprend pas, dans ces difficultés, dans cette obscurité, eh bien, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est d'être fidèle à ce qu'on croit, d'être respectueux, cohérent avec tout ce qu'on croit. Même si on ne comprend pas, même si c'est douloureux, il y a une fidélité qu'on a à avoir face à la réalité. Donc, d'un côté, il y a cette foi en Dieu, cette confiance en lui, qui vient parce qu'on connaît sa fidélité, mais qui se manifeste par notre fidélité. Ce n'est pas si évident. Et cette confiance dans la fidélité de Dieu, c'est quelque chose qui doit se construire. C'est pas quelque chose, c'est une chose qui nous est révélée, la foi c'est quelque chose qui est donné, mais la foi en la fidélité de Dieu, c'est quelque chose qui se construit. Et Habacuc, dans ce chapitre 3, il se met à prier. Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler de tes exploits et j'en suis rempli de respect. Accompli autour de notre vie, au cours de notre vie, des œuvres semblables, fais-les connaître de notre vivant. Même si tu as raison d'être en colère, manifeste-nous encore ta bonté. Et ensuite, il y a un long passage où, dans un langage très poétique, Habacuc rappelle un peu l'histoire d'Israël, mais vu du niveau de Dieu, comment Dieu agissait au travers des plaies d'Égypte, au travers de toutes ces choses négatives qu'ils ont vécues, on voyait Dieu au-dessus, accompli au cours de notre vie des œuvres semblables. Voilà ce que Dieu a fait dans l'histoire. Et voilà la prière que fait Habacuc. Il va demander une chose, il ne va pas demander la délivrance, il ne va pas demander « et arrête Nabucodonosor » puisqu'en fait Dieu lui a dit « c'est moi qui l'ai envoyé ». On ne va pas prier comme ça. Mais face à cette chose-là, il a besoin de quoi ? Que sa confiance soit construite. Alors il rappelle l'histoire d'Israël, il rappelle de toute cette histoire violente, mais au cours de laquelle Dieu a été fidèle. Tant de fois ils sont tombés, tant de fois Dieu les a relevés, tant de fois il y a eu des ennemis, tant de fois ils ont été sauvés. Et il termine sa prière en disant « Tu t'avances au secours de ton peuple, au secours du roi que tu as choisi avec l'huile d'onction. » Au travers de tout cela, au travers des siècles, la fidélité de Dieu était là pour que les plans s'accomplissent, pour que Israël, après des siècles, continue d'exister. Continue encore plus loin d'exister aujourd'hui, comme l'Église continue d'exister depuis 2000 ans, alors que des obstacles ont été là tout au long, la souffrance, les difficultés. Dieu est fidèle et il nous a par exemple donné cet Ancien Testament, qui est des fois choquant pour nous, on a de la peine à lire ça, pour nous montrer comment, au travers de circonstances choquantes, de circonstances incompréhensibles, qui semblent incohérentes avec Dieu, le Dieu tel qu'on le connaît, eh bien quand même, il a porté les choses. Dans nos propres vies, franchement, combien de fois on a expérimenté la fidélité de Dieu ? Ben, c'est généralement quand ça n'allait pas très bien, ou quand on s'est planté, ou quand on a fait ce qu'il ne fallait pas, ou quand on n'y comprenait rien, tout à coup on se rend compte après, mais non, Dieu est fidèle, plein de miséricorde. Cette expérience-là, c'est ça qui nous construit, et c'est ça qu'on a besoin de faire. Et la Bible est là pour nous rappeler toute cette histoire douloureuse où Dieu est présent, pour qu'aussi nos vies puissent être lues avec le même regard. Habacuc ne prie pas pour être délivré, mais il construit par cette réflexion devant Dieu, il construit sa foi dans cette fidélité de Dieu. Et je crois que tout ce qu'on a vécu est très important. Il y a la Bible qui nous en rend témoignage, il y a le témoignage de beaucoup d'autres qui peuvent nous encourager dans la foi, mais sachons lire nos vies avec ce regard-là. En fait, Habacuc, il conclut d'une façon qui est assez curieuse. Il y a un long développement, je ne lis pas, mais au chapitre 3, verset 16, il a rappelé tout ce qui se passe. Hein. « J'entends ce tumulte et je suis profondément bouleversé. Mes lèvres frémissent de crainte, mon corps est paralysé, mes jambes se déroulent sous moi. En silence, j'attends le jour de la détresse pour attaquer le peuple qui nous opprime. Les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins, les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent aucune récolte, il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. Ben, c'est une réalité. En Ukraine, c'est... Ouais, mes lèvres frémissent de crainte, mon corps est paralysé, mes jambes se déroulent sous moi. Il me semble que, en tout cas moi, si je me trouvais dans ces villes, ce serait une bonne description de ma situation. En silence, j'attends le jour de la détresse pour attaquer le peuple qui nous opprime. Là aussi, les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins. C'est une réponse à la prière. Ben, c'est un premier volet de réponse à la prière. On a des fois l'impression et on a le désir que parce qu'on est chrétien, parce qu'on prie Dieu, on veut recevoir la paix, que toutes ces choses qui sont là soient comme ne pèsent plus sur nous. On a envie de la paix. Cette angoisse, ces craintes qu'on a à cause de ces histoires d'Ukraine, j'aimerais bien en être débarrassé. Eh bien, nous sommes parfaitement, nous sommes pleinement participants aux conséquences de ces événements. On n'est pas en dehors. On est comme tous. Ça nous atteint aussi dans nos émotions. On n'est pas détaché de cela. Ces événements qui arrivent, ils sont là, produits par Dieu, pour faire un effet, mais un effet sur nous aussi. Nous faisons peut-être partie de la solution, on va en parler, mais on fait aussi partie du problème. Ces choses-là, on en est aussi responsable. S'il y a des choses en Ukraine, ce n'est pas à cause juste que l'Ukraine se conduit mal, c'est parce que la culture du monde est mauvaise. Et Dieu intervient de cette façon-là. Et je crois qu'il ne faut pas penser ou pas vouloir échapper à ce stress, échapper à cette réalité-là. Elle est là et elle nous parle. Mais il y a des... On pense toujours à ces versets de Jean qui nous dit, Jésus nous dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Est-ce que c'est faux? Non. Mais il dit aussi, je vous donne la paix, mais pas comme le monde donne. Il parle dans Philippiens de la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est un autre niveau. Donc, ne fuyons pas l'inconfort que nous donnent ces situations tendues et incompréhensibles. Mais Habacuc fait quelque chose qu'on retrouve très souvent dans la Bible. Il dit, ça va pas, c'est horrible, je souffre, il n'y a plus ça. Et tout à coup, c'est le verset suivant. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Il disait, les champs ne fournissent aucune récolte. Il n'y a plus de moutons dans les enclos. Il n'y a plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Ça, c'est une des choses caractéristique de la Bible, quand on lit par exemple les psaumes. Il y a tout un tas de versets où ça ne va pas, puis tout à coup, boum, au milieu, une expression de confiance, de joie. Et je crois que ça décrit très bien notre réalité. On a à la fois ces difficultés, cette souffrance, on participe de la souffrance du monde, et puis en même temps, mais sur un autre plan et différemment, il y a une ressource extraordinaire, il y a quelque chose de différent. Et c'est très frappant de voir ici, je trouve, ce changement de plan. On regarde les événements, on regarde ça, et ils sont négatifs. Et tout à coup, on change complètement de plan, et puis, je trouve ma joie dans le Seigneur, tout autre chose. C'est ça la foi, c'est se tourner de la réalité existante et tout à coup voir autre chose. Et regardez ce qui est dit, et je trouve très beau ici. Je trouve ma joie dans le Seigneur, je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est Dieu qui donne le salut, c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui donne la joie. Ça ne vient pas de moi, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est pour ça qu'on retrouve la foi ici, la foi qui reçoit de Dieu. Tant qu'on cherchera soi-même, on ne le trouve pas, mais se tourner, changer de mode, arriver et regarder vers Dieu, on ne cherche plus à être en phase avec les situations à voir, mais tout à coup, on passe sur un autre plan, une autre dimension. Le Nouveau Testament l'exprime d'une autre manière, c'est Colossiens 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ne pas regarder ce qui se passe sur la terre, regardez ce qu'il y a dans le ciel, en haut. Des fois, on a l'impression que si on regarde dans le ciel, en haut, ces belles choses, on chante de la louange, ben, on oublie et on laisse de côté. C'est un peu une fuite des fois. Et on a le risque que ce soit une fuite, de se concentrer là puis de fermer les yeux à tout le reste. Non. Ce n'est pas la fuite des réalités. C'est la seule solution. Pourquoi ? Mais parce que le vrai problème que Habacuc décrit dans les premiers versets, c'est le péché, c'est de faire sans Dieu, c'est toute cette situation et cette culture dans laquelle on se trouve. Et si on se tourne vers Dieu, si on reçoit les choses d'en haut, si on dépend de Dieu, eh bien, on répond au vrai problème. Le problème, c'est qu'on est indépendant de Dieu. Le problème, c'est qu'on agit sans Dieu. Eh bien, la seule solution, c'est de se tourner vers Dieu. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que c'est si important de se tourner vers Dieu, de regarder vers lui, de nous attacher aux réalités d'en haut, ne pas se concentrer sur ce qui se passe, mais systématiquement, avec constance et joie, se tourner vers lui. Et puis, c'est la vraie solution. Si le problème, c'est le péché, eh bien, la seule manière de ne pas pécher, c'est de recevoir la grâce de Dieu, ce qui nous équipe pour être témoin, qui nous équipe pour être celle et lumière, qui nous équipe pour faire contraste. J'ai dit tout à l'heure, dans ces versets qui parlent de la foi et de la fidélité, notre fidélité est importante. Mais le seul moyen d'être fidèle, le seul moyen, c'est de recevoir les ressources de Dieu. Donc, chercher Dieu, se tourner vers lui, c'est finalement la seule solution pour vraiment pouvoir avoir un impact, pour pouvoir vraiment, contraster et faire que ce monde pourri soit pas si pourri que ça. Mettre de la lumière, du sel. Et on ne le fera pas en se concentrant sur le monde, on le fera simplement qu'en recevant de Dieu. Face à cette angoisse, c'est tous ces problèmes, la seule solution, c'est la foi. C'est de se tourner vers Dieu. Le juste vivra par sa fidélité. On sera efficace simplement parce qu'on a confiance dans cette personne qui nous a touchés, qui nous a transformés. J'aimerais, pour terminer, rajouter juste une chose. Dans l'Ancien Testament, ce contraste entre ce qu'on connaît de Dieu et puis ce qu'on voit, ce passage le dit bien, on ne va pas le comprendre. Dans le Nouveau Testament, ça rajoute quelque chose. Jésus ne va pas expliquer les mystères du bien et du mal. C'est une chose qui nous échappe totalement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu, lui, entrer dans cette réalité. Ce qu'on décrit là, celui qui... On peut dire ça comme ça. Celui qui envoie Nabucodonosor, c'est aussi celui qui est blessé par Nabucodonosor. Il entre, il est à la fois celui qui décide, mais il prend sur lui. Il a pris sur lui nos péchés, mais il a pris sur lui notre souffrance, il a pris sur lui nos maladies, il a pris sur lui toute cette incompréhension. Il a connu le Dieu qui règne et qui décide, connaît et a vécu et est entré dans ces choses-là. On ne peut pas expliquer ces choses-là, mais réaliser que pour Dieu, c'était assez important, toutes ces choses-là, pour les envoyer sur les hommes, mais c'était assez important pour les porter lui-même. On ne peut pas accuser Dieu d'être injustice, on peut dire « je ne comprends pas », mais il n'y a plus d'accusation sur Dieu de notre part, parce que simplement, il a pris tout cela, il l'a pris sur lui. Jean a lu tout à l'heure ce verset j'ai pas ma Bible pour le dire, mais dans Hébreux 10, là, 10, 20, si tu peux les relire, si tu l'as.
Le verset d'Hébreux,
l'introduction. Ouais.
C'est 14, 16. Ouais. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, un grand sacrificateur, incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté à tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. approchons-nous avec assurance, trône de la grâce, afin d'obtenir compassion, miséricorde, et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun.
Oui, pour moi, ça c'est une... voilà l'ajout du Nouveau Testament qui était caché beaucoup plus dans l'Ancien. La réalité de la souffrance et du fait que le chemin de souffrance et de guerre et d'ira jusqu'à la fin, il est contrebalancé, ou il est pas expliqué, mais il est rendu acceptable, je dirais, à cause de ça, parce que celui qui conduit les choses de cette manière-là est celui qui les a portées lui-même et qui nous accompagne avec compassion dans ce chemin difficile pour nous, avec tous les soucis qu'on peut avoir, mais en Ukraine. Et puis je dirais pas seulement en Ukraine, en Russie, les croyants russes aussi sont, pas que les croyants, la souffrance, elle est partout. Et il y a besoin d'encouragement, il y a besoin d'autres dimensions que ça. Mais cette confiance qu'au travers de cela, ben, c'est Dieu qui règne et qui règne avec bonté, fidélité, et qui permet de passer le travers parce qu'il a un but qu'il atteindra. Amen.